Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Une des pensées les plus fécondes de Descartes relativement à Dieu, c'est la découverte que Dieu est liberté. La vie de Dieu consiste dans la liberté. Et il en découle que l'homme, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est pareillement liberté ou liberté à sa manière, mais en écho et en référence à la liberté divine. Nous rencontrons ici une notion importante chez Descartes, c'est la notion de causa sui. Dieu est causa sui, cause de soi-même, et ce qu'il nous faut méditer maintenant, c'est le fait que la liberté humaine est causa sui. La liberté humaine est cause d'elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si nous regardons des boules de billard sur un billard, nous voyons qu'une boule qui a été heurtée peut en heurter une autre et lui communiquer ce que Descartes a découvert et qu'il appelle sa quantité de mouvement. Nous voyons par là qu'une boule de billard est en mouvement parce qu'elle a reçu une impulsion d'une autre, une quantité de mouvement, et qu'elle se met à ce moment-là à rouler sur le billard. Nous voyons donc qu'un corps peut être mu quand il est touché par un autre et choqué par un autre, qu'il reçoit un choc et que ce choc le propulse ailleurs. En va-t-il de même pour la liberté humaine ? Est-ce que l'âme humaine n'agit que dans la mesure où elle est heurtée, choquée par une puissance étrangère ? Nous voyons bien ici comment la notion de cause de soi-même éclaire l'exercice et l'essence d'abord de la liberté humaine. La boule de billard ne peut être en mouvement, ou un mobile ne peut être en mouvement que s'il a reçu par un choc un mouvement d'un autre, tandis que la liberté humaine, c'est ce qui se meut de soi-même, c'est ce qui est cause de soi-même. La notion de cause de soi-même donc renvoie à l'idée d'être cause de ses propres actes, d'être l'auteur de ses propres actes. L'homme est liberté, cela veut dire qu'il n'est pas comme un corps qui agit parce qu'il reçoit une impulsion d'un autre, mais cela veut dire qu'il agit parce que son entendement l'homme agit parce que son entendement lui présente une pensée et qu'il a la liberté d'y consentir ou de ne pas y consentir, la liberté donc de la volonté. Cela veut dire par conséquent que d'abord par la liberté, l'âme humaine est semblable à Dieu. Mais ensuite, c'est aussi par l'exercice de notre liberté que nous connaissons Dieu. C'est tout à fait profond quand nous y réfléchissons. Ça veut dire que c'est non seulement par la découverte de la liberté que nous découvrons semblable à Dieu, mais aussi par l'exercice, le mauvais usage qui en abîme et en négatif renvoie à Dieu, et le bon usage qui renvoie positivement à Dieu. C'est par cet usage de notre liberté que nous connaissons Dieu. Nous nous connaissons comme à l'image de Dieu en faisant un certain usage de notre liberté. Donc l'essence de la liberté chez l'homme, comme chez Dieu, c'est ce pouvoir illimité de causer ses propres actes. L'homme n'est pas un corps poussé par un autre, l'homme n'est pas une machine programmée pour certaines opérations, l'homme est auteur de ses propres actes, cause de ses propres actes. Et c'est par là que l'homme est une grandeur propre, qui est la grandeur de sa liberté. Un autre point important de cette affaire de la liberté, et c'est un point qui a été vu par les stoïciens, c'est ceci. La liberté, croyons-nous, peut être perdue. De même qu'un homme peut perdre ses clés ou je ne sais quoi, nous croyons volontiers que nous pouvons perdre notre liberté, que nous pouvons la perdre par des causes extérieures. Autrui, par exemple, me dépossède de ma liberté. Ce que Descartes explore ici, après les stoïciens, mais le XVIIe siècle est un grand siècle de relecture de la morale stoïcienne, ce que Descartes découvre donc, c'est que la liberté ne peut pas être perdue par des causes extérieures. Elle ne peut être perdue que intérieurement, par renoncement intérieur à son exercice. Rappelons-nous, le paradoxe stoïcien, c'est qu'un homme peut être en prison et cependant plus libre que celui qui n'y est pas, et qu'un homme peut être sous la torture et disputer de félicité avec les dieux. La véritable liberté est une liberté intérieure, dans ce que les stoïciens appellent la citadelle intérieure, cette citadelle imprenable à la violence d'autrui et du tyran. Il en découle que cette liberté est invincible, la citadelle est imprenable, et tant qu'un homme continue de se vouloir libre et de vouloir exercer sa liberté, il est invincible. La seule manière de perdre la liberté, c'est de ne plus se vouloir libre. C'est un renoncement intérieur à l'exercice de la liberté. Et donc autrui, évidemment, n'y est pour rien, c'est moi-même tout seul qui renonce à me vouloir libre, qui renonce à cette première libre résolution de soi qui avait pourtant commencé l'histoire véritable de la liberté, de ma liberté. Nous voyons bien alors par là que c'est par la liberté que l'homme est semblable à Dieu. Et Descartes dit ceci, donc, c'est le libre arbitre qui est notre principale perfection et qui nous rend en quelque façon semblable à Dieu en nous faisant maître de nous-mêmes, pourvu que nous ne perdions point par lâcheté les droits qu'il nous donne, les droits que nous donne le libre arbitre. Descartes lance ici un mot important qui est le mot de lâcheté. Il y a chez l'homme la possibilité d'une lâcheté spirituelle, qui est d'abord une lâcheté intellectuelle. Le renoncement au jugement, le renoncement au discernement. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est bon? Et qu'est-ce qui est mal? Cette action est-elle bonne ou mauvaise? Renoncement au discernement, renoncement au jugement, et par là renoncement à l'action libre. Et ceci au profit notamment, par exemple, des passions qui peuvent être aussi des passions sociales, des émotions, toutes choses qui nous submergent et qui font que nous avons nous-mêmes renoncé à notre liberté. Alors, regardons maintenant ce qui advient de l'homme qui veut faire un bon usage de son libre arbitre. Et regardons notamment ce qui concerne la vie sociale et la vie politique. Descartes, nous le savons, a peu écrit sur la politique. Il a en revanche beaucoup écrit sur la morale. Mais quand nous lisons ses lettres, notamment, nous découvrons des pensées décisives concernant le problème de la politique et la vie dans l'État, ainsi que la vie avec autrui. Il existe une lettre notamment importante, qui est la lettre à Élisabeth du 15 septembre 1645, dans laquelle Descartes énonce des points capitaux. Il énonce dans cette lettre les vérités essentielles qui sont utiles pour conduire sa vie. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour conduire sa vie librement et en vérité? Il nous faut d'abord savoir, dit Descartes, qu'il y a un Dieu. À partir de là, il faut savoir ce qu'il est, quel est son pouvoir et quelle est sa perfection. Deuxième point, il nous faut connaître la nature de notre âme. Il nous faut connaître la noblesse de l'âme humaine liée à la présence en elle du libre arbitre. Ensuite, troisième point, il nous faut connaître la grandeur de l'univers pour connaître notre place dans ce tout que Platon appelait un cosmos. Et il nous faut savoir que ce cosmos, du point de vue de la physique moderne, qui est celle de Descartes, est un monde indéfini. Descartes ajoute une vérité capitale qui touche aux politiques et à la vie avec autrui. Je lis, c'est celle-ci que, bien que chacun de nous soit une personne séparée des autres, et dont par conséquent les intérêts sont en quelque façon distincts de ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu'on ne saurait subsister seul et qu'on est en effet l'une des parties de l'univers, et plus particulièrement encore l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet État, de cette société, de cette famille, à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Fin de citation. Cette lettre nous permet de mettre en relation l'homme avec l'autre homme et l'homme avec la société ainsi qu'avec l'État. Le premier point qui m'intéresse, c'est le fait que chacun est une personne séparée des autres. Cette notion de personne séparée fera couler beaucoup d'encre par la suite, mais il faut voir que pour Descartes, c'est une grande chose, et la séparation en question n'est pas un malheur, au contraire, c'est pas une aliénation. La séparation en question signifie l'autarkeia, l'autosuffisance morale de cet homme qui est doué d'un libre arbitre, qui le rend cause de ses actes et maître de soi. Donc la séparation ici signifie la plénitude de la libre individualité ou de la personne. Donc c'est l'indépendance de l'homme comme personne. Nous savons, nous l'avons vu, qu'un des traits de l'humilité vicieuse consiste à croire que nous ne pouvons pas subsister par nous-mêmes. La séparation dont il est question est ici heureuse, elle est le signe de la noblesse de l'âme humaine, qui est une unité spirituelle. Cela veut dire aussi que tout homme, ici, a à regarder tout autre homme en voyant en lui, justement, une noblesse liée à la présence en lui du libre arbitre. De telle sorte que la société telle que Descartes nous demande de la penser et d'y vivre, est une société de noblesse universelle, une société dans laquelle nous avons à voir en tout autre homme une personne séparée, une personne capable d'être cause de ses propres actes et d'agir selon le souverain bien. Le point suivant qui nous intéressera maintenant, c'est le fait que nous ne pouvons pas subsister seuls. le fait que chacun d'entre nous est membre d'un État, d'une société, d'une famille, et à laquelle nous sommes liés par notre demeure, par notre naissance, d'abord, évidemment. Alors, il faut méditer ce point et voir tout ce que cela implique. Nous nous rappelons que, pour Aristote, un homme qui vivrait seul serait ou bien une bête ou bien un dieu. En revanche, l'homme cartésien n'est pas le seul, mais en tant que moi, il est ici celui qui vit dans une communauté humaine et celui qui vit d'abord selon un lien naturel. Le fait de la naissance, qui bien sûr n'est pas choisie, puisque pour choisir il faut être, et là la naissance est un être donné. Je suis né dans tel pays, dans telle famille, donc il y a bien ici un donné naturel immédiat. Mais l'étonnant, c'est que ce lien, qui est d'abord non voulu, antérieur à l'apparition du vouloir, peut maintenant être transfiguré en un lien libre, éclairé et voulu par la raison. Je prendrai pour exemple Descartes, qui a librement choisi de vivre le plus clair de son temps, non point en France, mais aux Pays-Bas, et plus tard, comme on sait, en Suède, où il finira même par mourir.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Notre vie commence par un lien factuel, un lien dont nous n'avons pas décidé et qui fait que nous sommes venus au monde sans l'avoir véritablement voulu, bien sûr. Et simplement à partir de là, ce lien naturel initial peut être transfiguré en un lien qui est une union de volonté et qui touche à ce que Descartes appelle le libre arbitre. Une union de volonté qui veut dire que nous pouvons discerner quelle sera la vie la meilleure pour nous et librement donc par exemple quitter un pays, devenir citoyen d'un autre pays et choisir le lieu de notre résidence. J'y insiste, c'est ce qu'a fait Descartes lui-même en vivant dans le pays dans lequel il lui semblait que sa vie serait la meilleure ou conforme à sa destination. À partir de là, une question nouvelle surgit qui est celle de savoir ce que nous devons à autrui. Et en termes de Descartes, cela veut dire que c'est la raison qui doit nous éclairer et qui doit nous montrer de quelle manière nous avons à nous intéresser à la vie publique, c'est-à-dire à la vie de notre famille, à la vie de notre société, à la vie de notre État. Et comme dit Descartes, donc, il faut satisfaire à sa conscience. Que signifie satisfaire à sa conscience? Parce qu'il avoue, il ajoute qu'il est difficile de mesurer exactement jusque où la raison ordonne que nous nous intéressions pour le public. Donc cela pose une grande question, qui est la question de la relation entre l'individu et la société, ou l'individu et l'État. Nous voyons bien ici que, puisque cet individu est né d'une famille, né d'une société, est né dans un État, il a un certain nombre d'obligations natives, constitutives de son État à l'égard de toutes ses institutions. Mais la question est de savoir jusqu'où, justement, la raison ordonne, non pas simplement la coutume, mais la raison, jusqu'où la raison ordonne-t-elle que nous nous intéressions pour le public et à quoi nous appelle-t-elle? Alors, il suffit bien sûr, dit Descartes, de satisfaire à sa conscience, mais nous voyons que cela est tout à fait subtil. Le commandement de la raison consiste d'abord en une obligation générale de s'intéresser au bien public. Ce qui veut dire que cet individu qui est libre, cet individu qui est souverain en soi-même, qui est cause de ses propres actions, cet individu qui est une personne séparée de toutes les autres, donc bel et bien un libre individu, cet individu est en même temps quelqu'un qui vit dans une communauté humaine et c'est quelqu'un qui a à s'intéresser au bien public, au bien commun aussi dira-t-on, en vue de et qui doit aussi travailler pour autrui, dit Descartes, pour l'amitié. Nous touchons ici à une question subtile et profonde de Descartes, à propos de laquelle Descartes a écrit, alors ce sont toujours des lettres, ce sont des passages assez brefs, mais qui éclairent suffisamment la question, l'amitié. Grande question pour Descartes. Pourquoi agir pour autrui? Eh bien, tout simplement par amitié. Il y a donc ici l'amitié, non seulement au sens éminent que nous connaissons, qui fait que deux personnes sont intimement unies par l'amitié, mais encore une forme d'amitié politique, écho d'Aristote évidemment, qui fait que tout homme, en tant qu'il est citoyen d'un État, a à travailler pour autrui. Voilà, pour l'amitié politique et pour la qualité de la vie de la communauté humaine dont il est membre. Chacun, donc, par conséquent, doit, dit Descartes, plus au public qu'à soi. Chacun doit plus au public qu'à soi. Donc ça veut dire que cet individu souverain et libre, néanmoins, se voit bel et bien obligé à l'égard du bien commun. Et chacun, s'il écoute la raison, découvre que sa raison lui ordonne de travailler davantage au bien commun qu'à son bien propre. Nous voyons donc que cet individu, dont on pourrait craindre l'égoïsme, en fait, ne peut pas être égoïste, et que la découverte et l'expérience de la liberté est la découverte de ceci que, précisément parce que je suis libre, je me dois à autrui pour l'amitié, et je me dois au public, au bien commun, précisément, librement et en vue du bien, tout simplement. La mesure juste et commode est laissée au discernement d'un chacun, quelle que soit sa situation, prince ou simple particulier, et donc la mesure est laissée à la conscience de chacun. C'est à chacun de discerner ce qu'il doit au public, c'est-à-dire ce qu'il doit à la communauté dont il est membre. Descartes le précise dans une lettre importante, et je lis. « Il faut toujours préférer les intérêts du tout dont on est parti à ceux de sa personne en particulier. Toutefois, avec mesure et discrétion, car on aurait tort de s'exposer à un grand mal pour procurer seulement un petit bien à ses parents ou à son pays. Et si un homme vaut plus, lui seul, que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. » Donc nous voyons ici l'individu en relation avec une communauté vivante, et cet individu, découvrir le commandement de la raison, c'est de préférer le bien commun à son bien propre, préférer les intérêts du tout dont il est parti à son intérêt particulier. Mais nous voyons ici que ce n'est pas une maxime absolue. Ou plutôt, c'est une maxime absolue, mais dont il faut user avec circonspection. Descartes montre bien ici une difficulté, par l'exemple qu'il donne, c'est que si un homme vaut plus que tout le reste de sa ville, par exemple, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Donc Descartes pensera bien à la notion de sacrifice. Donc la raison peut nous commander le sacrifice pour l'amitié, pour autrui, mais ce sacrifice doit se faire de manière raisonnable, de telle sorte que ce sacrifice permette le salut de la chose pour laquelle l'homme se sacrifie. Nous rappelons ici aussi un mot d'Aristote selon lequel le tout est nécessairement antérieur à la partie. Or, nous voyons ici chez Descartes que la partie du tout est une singularité spirituelle libre. C'est un moi autonome. L'antériorité du tout ne fait donc plus sa primauté absolue, mais la grandeur propre de son autorité et de son pouvoir. Et il faut qu'elle se concilie avec la perfection propre de chaque partie. Cela veut donc dire que la communauté ne peut pas écraser ou opprimer l'individu en lui demandant de se sacrifier purement et simplement, au sens vulgaire du terme, pour la communauté. Parce que la communauté dont il est question est une communauté d'hommes libres, une communauté de singularité spirituelle, capable de noblesse, de par le bon usage de leur liberté. C'est pourquoi Descartes précise ce qu'implique cette noblesse du libre-arbitre. Je lis un extrait d'une lettre. « Dieu a conjoint les hommes ensemble d'une étroite société. » Fin de citation. « Chacun est ainsi une partie d'un tout, mais pourtant jamais la partie ne doit être aliénée ou engloutie dans le tout. » Dieu a conjoint les hommes ensemble d'une étroite société. Cette étroite société fait que chacun découvre un devoir à l'égard d'autrui, un devoir à l'égard du tout, ce devoir peut aller jusqu'au sacrifice pour le tout, mais ce sacrifice repose sur un discernement de l'intelligence. La politique cartésienne est donc celle des singularités ordonnées à la liberté de la raison, dans leur relation. Par conséquent, la conjonction des hommes dans une cité peut s'élever du lien naturel, du fait qu'ils sont nés dans cette cité, un peu par hasard, dirons-nous, au sens vulgaire, et cela peut s'élever donc de ce lien naturel à l'union raisonnable et libre des volontés. où à ce moment-là, chacun consent à entrer en société, à former société avec tous les autres. La nécessité de la vie publique impose à l'individu de travailler pour autrui et pour le tout. Mais la raison demande autre chose, davantage. La raison demande à l'individu de se connaître comme partie libre de ce tout, et donc de ne pas être simplement comme une abeille dans une ruche ou comme une fourmi dans une fourmilière, à savoir travailler pour autrui et pour le tout, mais de se connaître comme membre libre de ce tout et comme membre qui a à discerner ce qu'il doit à ce tout et à la perfection de ce tout. Donc vous voyez qu'ici, aucune aliénation n'est possible ou aucun asservissement de l'individu, et cela veut dire aussi que la communauté sera la plus parfaite possible quand elle laissera à chacun de ses membres la possibilité de ce discernement. Quand au lieu d'asservir des hommes pour en faire des esclaves et des masses d'esclaves, la communauté donnera la meilleure éducation possible pour ses membres afin que chacun découvre par lui-même le bien auquel il est destiné. C'est donc ici notre intelligence qui nous demande de discerner l'ordre des perfections dans une action qui a toujours affaire à des cas singuliers, bien sûr. L'excellence d'un homme fait qu'il peut valoir plus que le tout dont il est un membre. Alors, la raison exige, pour Descartes, qu'il se sauve lui-même si son sacrifice lui paraît vain. Si se sacrifier pour l'État, par exemple, pour la cité, pour autrui, lui paraît vain parce que ce sacrifice ne sauverait pas ce dont il est question, eh bien la raison pour Descartes exige que cet homme se sauve et ne se sacrifie pas en vain. Nous retrouvons ici la notion de l'héroïsme de la liberté. L'héroïsme est affaire de discernement s'il veut ne pas être faux, et ce que Descartes appelle « vaine gloire ». Parce qu'on peut vouloir, justement par amour de la vaine gloire, se laisser croire et faire accroire à autrui qu'on est capable de grandeur dans un grand sacrifice, alors que ce n'est qu'une illusion de sacrifice. Je lis un passage de Descartes qui explique cela. « Car pour ceux qui s'exposent à la mort par vanité, parce qu'ils espèrent en être loués, ou par stupidité, parce qu'ils n'appréhendent pas le danger, je crois qu'ils sont plus à plaindre qu'à priser. » Il y a donc bien et bien des hommes qui s'exposent à la mort par vanité, en espérant qu'ils seront loués de leur sacrifice, mais ce sacrifice est vain et n'a aucune signification, aucune portée eu égard au bien commun. D'autres hommes, au contraire, se portent à la mort ou s'exposent à la mort par stupidité, n'ayant pas compris le danger qu'ils encouraient. Et pour Descartes, ces hommes-là ne sont pas dignes de louange. Il n'y a aucune gloire qui leur revient. Ils ne sont pas dignes de mépris non plus. Ils sont à plaindre. Et la bonne issue consisterait ou consistera à les éclairer et à leur permettre par cela de parvenir à, ou pour les autres en tout cas, à un meilleur discernement de la liberté véritable. La grande âme, le mégalopsychos dont parle Aristote, la grande âme, la magnanimité, n'a pas pour fin la louange et la gloire. Nous voyons que ce n'est pas un homme qui agit en vue de la gloire, mais qui agit en vue de la perfection de l'usage de son libre arbitre et en vue de la plus haute perfection de son action raisonnable. Donc ça veut dire qu'il y a ici aussi un déplacement et quelque chose de neuf par rapport à la morale antique, celle d'Homère. Nous nous rappelons la maxime « toujours être le meilleur et surpasser tous les autres ». Celui qui est le meilleur, sachant qu'il est le meilleur, sachant qu'une gloire légitime lui revient. Et il peut espérer qu'un poète comme Homère, s'il s'appelle Achille, chantera pour la postérité à jamais sa gloire. Tandis que la grande âme dont parle Descartes, en fait c'est chacun, c'est n'importe qui, cette grande âme a une noblesse intrinsèque. Et c'est cette noblesse intrinsèque qui est la source de sa gloire. Ce n'est pas nécessairement un acte éclatant, ce n'est pas, surtout pas en tout cas, s'exposer à la mort par vanité ou par stupidité, c'est s'exposer à la mort. C'est-à-dire sacrifier sa vie, être capable de sacrifier sa vie pour le bien d'autrui, pour le salut d'autrui ou pour le salut d'une communauté vivante, pour le bien véritable. Donc c'est sa noblesse intrinsèque qui est la source de sa gloire.